VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 4 juillet 2023, Independence Day, la fête nationale des États-Unis, en direct de Washington, Idrissa Sevulia, pour commencer les titres. Après des mois de suspense, le président sénégalais Macky Sall annonce qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat en 2024. Amnesty International dénonce des atrocités de chaque camp contre les civils au Cameroun anglophone. Les émeutes en France, les violences retombent, le gouvernement à l'heure du bilan. 9 Palestiniens tués en Cisjordanie dans l'opération de l'armée israélienne à Jenin. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal. Donc au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle de 2024 au nom d'un code d'honneur et d'un sens de la responsabilité historique qui lui commande de préserver sa dignité et sa parole. Notre correspondant à Dakar, Sedina Abagui.
Ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024.
Attendu au tournant par les Sénégalais, Macky Sall ne sera pas au départ de la présidentielle de 2024, même s'il juge qu'il pouvait légalement y prétendre.
Et cela, même si la Constitution m'en donne le droit. Depuis la révision constitutionnelle de 2016, le débat juridique a été définitivement tranché par la décision du Conseil constitutionnel numéro 1-2016 du 12 février 2016.
Le président Sall dit ne pas suivre ses partisans et les nombreux responsables de sa coalition qui plaidaient pour qu'il reste au pouvoir, car selon lui, la nation est plus importante que tout. Et tous.
Le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence.
Enfin, Macky Sall précise que cette déclaration tardive s'explique par son souhait de ne pas suivre les spéculations et les commentaires autour d'un éventuel troisième mandat. Cette non-candidature du président Macky Sall ouvre la voie à sa succession à la tête de l'État, mais aussi au sein de la coalition présidentielle qu'il dirige et où aucun dauphin n'émerge particulièrement. Du côté de l'opposition, Karim Wade et Khalifa Sall devraient être rétablis dans leurs droits civiques suite aux accords conclus lors du récent dialogue national. Par contre, une grande interrogation entoure la candidature d'Ousmane Sonko. Seydina Abagui pour VOA Afrique, Dakar.
Les civils de l'ouest du Cameroun sont régulièrement victimes d'atrocités dont des exécutions, tortures et viols perpétrés par les forces de l'ordre et les séparatistes armés en conflit dans cette région majoritairement anglophone. C'est alarmé mardi Amnesty International dans un nouveau rapport. L'ONU et les ONG internationales dénoncent régulièrement des crimes commis depuis plus de 6 ans, des crimes commis depuis plus de 6 ans par les deux camps dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-est. Et du sud-ouest, pardon. Au Soudan, des tirs d'artillerie lourde ont de nouveau secoué Khartoum hier après plus de 2 mois et demi de combat entre les 1000 paramilitaires et l'armée qui a réclamé une nouvelle fois le renfort des civils Mohamed Oumfa.
Les combats ont commencé vers 4 heures du matin et ont duré toute la journée selon un habitant de la capitale. En fin de journée, l'armée de l'air a bombardé un convoi de blindés paramilitaires qui remontait vers Khartoum depuis le sud du pays selon des témoins. Pendant ce temps, plusieurs millions de personnes sont encore bloquées à Khartoum, sans eau, sans électricité et avec des réserves de vivres et d'argent quasiment à sec. L'armée s'est dite lundi prête à recevoir et préparer des combattants volontaires. Les jeunes et les hommes qui en sont capables doivent s'enrôler, avait déjà lancé le chef de l'armée le 27 juin dans son discours à la nation pour la fête musulmane de l'Aïd al-Adha. Lundi également, une coalition de tribus arabes de l'État du Darfour Sud a annoncé dans une vidéo mise en ligne son allégeance au FSR, Force de soutien rapide, et appelé ses membres à déserter l'armée pour rejoindre les rangs des paramilitaires. La guerre a une dimension ethnique au Darfour, a averti l'ONU, estimant que les exactions commises dans cette région, principalement par les FSR et des milices arabes alliées contre des civils non arabes, pourraient constituer des crimes contre l'humanité.
En Libye, l'homme fort de l'Est, le maréchal Khalifa Haftar, a appelé hier à une répartition équitable des recettes pétrolières donnant jusqu'à fin août pour que ce soit fait. Une autre commission chargée de mettre en place les dispositions financières en vue d'une gestion équitable des fonds publics et des revenus pétroliers doit être mise en place, faute de quoi les forces armées seront prêtes à répondre aux instructions le moment venu, a-t-il prévenu sans donner plus de précision lors d'une allocution devant des officiers de son armée réunis à son quartier général.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La désescalade semble se confirmer en France sur le front des violences urbaines à la veille d'une reprise en mai politique où le président Emmanuel Macron doit recevoir ce mardi les maires de quelques 220 communes victimes d'exactions à travers tout le pays. Les dégâts sont estimés à 1 milliard d'euros par le MEDEF, la principale organisation patronale du pays. Et pour les transports publics en région parisienne, les émeutes urbaines ont causé au moins 20 millions d'euros de dégâts, selon une première estimation publiée hier par l'autorité régionale des transports, Eric Manirakidza.
Dans cette somme, il faut compter des bus brûlés, un tramway brûlé, deux tramways endommagés, des mobiliers urbains qui ont été cassés, a précisé l'autorité Île-de-France Mobilité. Au total, 39 bus ont été brûlés partout en Île-de-France depuis le début des émeutes, notamment 12 bus dans le dépôt de la Régie autonome des transports parisiens d'Aubervilliers et 14 bus dans le dépôt de la société Procar à Provins, a détaillé l'autorité Île-de-France Mobilité. Il faut compter environ 350 000 euros pour un bus, selon l'autorité régionale des transports. Île-de-France Mobilité a rappelé la reconduction lundi soir de l'arrêt des 21h de la circulation des bus et tramways mise en place depuis plusieurs jours, soulignant que, hormis le dépôt d'Aubervilliers, les dégâts ont été fortement limités depuis la mise en place de cet arrêté. Des rassemblements se sont tenus lundi devant de nombreuses mairies en France pour dire « ça suffit à la vague de violence urbaine ». La première ministre Elisabeth Borne a annoncé que le dispositif de sécurité pour faire face aux émeutes, soit 45 000 policiers et gendarmes, va être maintenu pour la nuit de lundi à mardi. Des émeutes nocturnes ont éclaté en France le 27 juin, jour de la mort de Naël, un adolescent de 17 ans tué d'un tir à bout portant par un motard de la police lors d'un contrôle routier à Nanterre.
Conflit israélo-palestinien, selon un dernier bilan du ministère palestinien de la Santé, 9 Palestiniens ont été tués et 100 autres blessés, dont 20 dans un état grave, hier à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'armée israélienne y a lancé une vaste opération qui a mobilisé des centaines de soldats et fait notamment usage de drones, John Linden.
Il s'agit de la plus importante incursion de l'armée israélienne en Cisjordanie depuis plusieurs années, contre ce que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a appelé un nid de terroristes à Jenin. Des fusillades et des explosions ont secoué la ville et le camp des réfugiés adjacents, bastion de groupes armés palestiniens visés à plusieurs reprises par des opérations israéliennes. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a, lui, dénoncé une guerre ouverte contre la population à Jenin. Et le djihad islamique palestinien a prévenu que toutes les options sont sur la table pour frapper l'ennemi, tandis que le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a dénoncé une opération israélienne brutale. La Ligue arabe a annoncé une réunion d'urgence ce mardi. Ici à Washington, les États-Unis ont réitéré leur soutien à la sécurité d'Israël et à son droit de défendre sa population, tout en ajoutant qu'il était impératif de prendre toutes les précautions possibles pour éviter la mort des civils.
Un bureau international chargé d'enquêter sur le crime d'agression contre l'Ukraine a ouvert hier à La Haye, ce qui constitue, selon Kyiv, un premier pas historique vers la création d'un tribunal spécial destiné à traduire en justice les dirigeants russes, Claire Morin-Gibourg.
Cette forme de parquet a pour mission d'enquêter et de collecter des preuves dans l'objectif de la tenue d'un procès à l'encontre de responsables civils et militaires russes impliqués dans l'invasion de l'Ukraine. L'ICPA, ou Centre international pour la poursuite du crime d'agression contre l'Ukraine, regroupe des procureurs de Kiev, de l'Union européenne, des États-Unis et de la Cour pénale internationale. Karim Khan, le procureur de la CPI, a salué l'ouverture du centre comme une journée importante, affirmant que c'était la première fois que des preuves de crimes de guerre étaient déjà réunies au milieu d'un conflit. La participation des États-Unis a ajouté du poids à la demande de création d'un tribunal spécial, même si Washington refuse toujours de devenir membre de la CPI. Le procureur général adjoint des États-Unis, Kenneth Polit, a déclaré que des représentants du département de la justice des États-Unis avaient remis une première série de preuves à l'ICPA. Les États-Unis soutiennent également la création d'un tribunal spécial destiné à traduire en justice les dirigeants russes pour crimes d'agression, a-t-il ajouté.
La Minute Éco, Nanik Talani.
En Côte d'Ivoire, les pluies ont diminué la semaine dernière dans la plupart des principales régions productrices de cacao après des semaines d'averses qui ont inondé les plantations, ont déclaré lundi les agriculteurs. Ceux-ci espèrent maintenant plus de soleil, nécessaire pour le développement de la récolte principale qui se déroulera d'octobre à mars. Le Gabon et le Tchad viennent de signer à Libreville deux accords visant à intensifier leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines, économie, commerce, investissement, finance, établissement bancaire, industrie de la défense, agriculture, sciences et techniques, éducation, information, sport, tourisme, santé et tout autre domaine d'intérêt commun. C'est ce qu'indique N'Djamena, qualifiant ces accords d'historiques. Pour terminer, le procès du Mozambique contre Crédit Suisse et autres sociétés pour le scandale des obligations au ton de 2 milliards de dollars peut avoir lieu, a déclaré la justice britannique lundi. L'affaire remonte à 2013 suite à trois accords entre des entreprises publiques mozambicaines et la société Privé Invest, financée en partie par des prêts et des obligations de Crédit Suisse pour développer la pêche au Mozambique et pour la sécurité maritime. Mais des centaines de millions de dollars ont disparu, conduisant des donateurs tels que le FMI à interrompre leur soutien à Maputo.
Merci Nanit. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les demi-finales de la CAN des moins de 23 ans se disputent ce soir au Maroc.
Oui, la première demi-finale oppose l'Égypte à la Guinée à 17h temps universel. Juste après, à 20h, le pays hôte, le Maroc, fait face au Mali. Pour le sélectionneur marocain, le début de la rencontre sera déterminant.
C'est une équipe qui a beaucoup de force offensive. Je pense que le début de match va être très important. Alors, on doit bien entamer le match, comme on a fait les trois premiers matchs, à part peut-être le premier match qu'on n'a pas vraiment très bien commencé, mais on a bien fini. Ça, c'est le plus important. Le début de match va faire la différence. Et pour nous, comme on a toujours fait, on a marqué 8 buts dans les trois matchs. On veut marquer des buts, on veut faire plaisir au public, mais on veut d'abord gagner les matchs, ça c'est le plus important.
Issam Charaï, sélectionneur du Maroc au micro d'Amin Birouk, notre correspondant à Casablanca. Les deux qualifiés pour la finale arracheront du même coup leur ticket pour les prochains Jeux Olympiques Paris 2024.
Athlétisme, un nouveau marathonien kényan suspendu pour dopage.
Titus Ekiru, sixième meilleur performeur de l'histoire sur le marathon, a été suspendu provisoirement pour dopage. L'annonce est faite par l'unité d'intégrité de l'athlétisme. L'athlète kényan de 31 ans a été contrôlé positif à l'acétonide de triamcinolone, un glucocorticoïde totalement interdit depuis janvier 2022 et aux narcotiques. Sans préciser la date du ou des contrôles, l'unité d'intégrité de l'athlétisme annonce que la suspension provisoire remonte au 28 juin 2022. Le coureur ne s'est pas présenté en compétition internationale depuis novembre 2021. L'unité d'intégrité de l'athlétisme a dénoncé en avril un dopage à grande échelle au Kenya, pays roi de la course de fond, miné par les cas positifs depuis plusieurs années. Le dopage est présent, il faut tout mettre dans les contrôles, a lancé en juin la légende kenyane du marathon, Eliud Kipchoge.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En Côte d'Ivoire, les élections municipales et régionales sont prévues le 2 septembre. La commission électorale indépendante exige un quota de 30% de femmes sur les listes électorales, sinon les partis politiques verront leurs listes rejetées. La réaction des chapelles politiques et des organisations de défense des droits des femmes dans ce reportage de Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
Le RHDP, parti au pouvoir, se dit satisfait de cette décision de la commission électorale indépendante. Doumbouya Ibrahim, secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral.
Le RHDP se fera fort de respecter le quota de 30%. D'ores et déjà, tous les candidats ont été sensibilisés à l'effet de mettre sur leur liste un minimum de 30% de femmes. Non seulement un minimum de 30% de femmes, mais de respecter rigoureusement leur positionnement comme indiqué par la loi.
Le PDCI RDA aussi promet de se conformer à la loi. Maître Émile Suibigoré, secrétaire exécutif chargé des questions juridiques.
Le PDCI RDA veillera à ce que tous ces candidats tête de liste déposent des listes de candidatures comportant au moins 30%, sinon plus, de candidatures féminines. Parce que nous savons que c'est l'une des conditions de validité même de la liste de candidatures que nous allons déposer.
Le PPACI se dit prêt à mettre en œuvre la loi du 14 octobre 2019, même si son leader, l'ancien président Laurent Gbagbo, est lui-même rayé des listes électorales. Cheïde Jean-Gervais, député et vice-président du PPACI.
Pour nous, au PPACI, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous allons nous atteler à confectionner des listes où il y a au moins 30% de femmes. Eh bien, le quota des 30% est un minimum. On peut aller au-delà si on le peut.
Dans un panel organisé par le National Democratic Institute, le 27 juin, des femmes ont réagi. Sita Koulibaly, présidente de l'Union des femmes du PDCI.
Dans les familles, vous avez des contraintes. En réalité, il nous faut une volonté politique affichée pour accompagner ces lois que nous avons acceptées.
Danielle Bonny-Claveri, présidente de l'URD, Union républicaine pour la démocratie, une des rares femmes à la tête d'un parti politique s'interroge.
Les femmes n'ont pas d'argent, les moyens financiers leur manquent. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas l'éventualité d'une réflexion ? Faut-il financer les campagnes électorales des femmes ?
Et les jeunes filles ont eu leur mot à dire. Joanna India, secrétaire générale adjointe de l'Union des jeunes du PDCI.
Au Burkina Faso et au Rwanda, il existe un quota pour les femmes respectées parce que dans la loi, il est prévu une sanction claire qui est le retrait de 50% de leur financement public par l'État. Donc je pense qu'il faudrait aller vers ce sens-là aussi en Côte d'Ivoire.
Entre respect du quota de 30% de femmes sur les listes électorales et l'alternance du genre, la lutte contre les pesanteurs des traditions et la question du financement des femmes, les lignes ont commencé à bouger, mais jusque-là, très lentement. Delphine Bouguise, Abidjan, VOA, Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Cameroun, des responsables affirment que la pollution due aux sacs en plastique dans le pays a doublé au cours des quatre dernières années pour atteindre 600 000 tonnes, nuisant à l'environnement et à la santé animale et humaine. Pourtant, le Cameroun a interdit depuis 2012 la production, la vente et l'utilisation des sacs en plastique non biodégradables, mais d'énormes quantités seraient introduites en contrebande depuis le Nigeria voisin. Les efforts déployés au Cameroun pour lutter contre les déchets, c'est de Yaoundé, un reportage de Moki Edwin Kinzeka. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Sur le marché Mpundi à Yaoundé, une femme utilise un mégaphone pour alerter sur la menace grave que font peser les sacs plastiques sur l'environnement. Elle affirme que les maladies et les inondations diminueront lorsque les gens reviendront à l'ancienne pratique d'emballage et de stockage des aliments dans des feuilles de plantain, de bananes ou d'autres plantes. Selon les ministères camerounais du commerce et de l'environnement, des caravanes ont été envoyées sur les marchés dans le cadre d'activités marquant la journée internationale sans sac en plastique, célébrée chaque année le 3 juillet. Florence Toumasang est médecin à l'Agence des services de santé de la Convention Baptiste du Cameroun. Les feuilles des plantes sont biodégradables et enrichies en antioxydants, explique-t-elle, alors que les sacs en plastique sont dangereux pour la santé et l'environnement.
Je ne sais pas comment nous allons empêcher les gens de mettre des aliments chauds dans des sacs en plastique, parce que la chaleur aide ces sacs en plastique à produire des biotoxines. Ces biotoxines s'infiltrent dans nos aliments et elles sont cancérigènes. Nous devons revenir à l'utilisation de feuilles qui sont naturelles pour protéger nos plats chauds.
De nombreuses personnes au Cameroun utilisent également des sacs en papier, mais certains affirment qu'ils ne sont pas aussi efficaces pour conserver les aliments cuits. En 2012, le Cameroun a interdit l'utilisation d'emballages en plastique non biodégradables au motif qu'ils obstruent les cours d'eau, gâchent le paysage et mettent 1000 ans à se dégrader. Lorsqu'ils se dégradent, ils se divisent en particules qui polluent le sol et l'eau. Après une baisse pendant plusieurs années, la pollution des sacs plastiques non biodégradables a doublé depuis 2019 pour atteindre 600 000 tonnes par an, selon le gouvernement. Abel Foncha Gogomou est le plus haut responsable gouvernemental du commerce dans la région du nord-ouest du Cameroun. Il dit qu'il n'est pas facile d'arrêter les énormes quantités de sacs en plastique qui passent illégalement en contrebande depuis le Nigeria quotidiennement.
En fait, nous n'avons pas été en mesure d'empêcher les sacs plastiques d'entrer à partir des pays voisins. La nature poreuse des frontières est un problème auquel nous sommes confrontés.
Des millions de sacs supplémentaires sont produits illégalement chaque année au Cameroun. Les civils utilisant ces sacs disent que le gouvernement n'a pas commencé à produire d'autres types de matériaux d'emballage alimentaire biodégradables en partenariat avec des entreprises privées, comme il l'avait promis. Le gouvernement reconnaît que les matériaux d'emballage qu'il produit ne répondent pas encore aux besoins du pays et encourage les civils à utiliser des feuilles. La journée internationale sans sacs plastiques est célébrée le 3 juillet de chaque année pour sensibiliser le public aux effets néfastes des sacs en plastique à usage unique sur l'environnement.
Merci Claire. Et en Guinée équatoriale, le gouvernement et le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, unissent leurs forces pour lutter contre la pollution de l'environnement par le plastique. Plusieurs activités ont donc été menées dans ce sens à Malabo, la capitale, et à Bata, poumon économique du pays. Un reportage de Samuel Obiang-Bana.
Du ramassage des résidus plastiques dans les deux principales villes du pays jusqu'au concours baptisé « Zéro plastique dans mon quartier », la mobilisation s'est faite contre la pollution de l'environnement qui reste une réalité préoccupante en Guinée équatoriale. Kossé Frank Kouswakin est un des experts au ministère des Forêts et de l'Environnement de Guinée équatoriale.
Nous avons aujourd'hui 400 millions de tonnes de plastique dans le monde, ce qui nous préoccupe plus. La majorité de la population n'a pas de connaissance sur la problématique que présente le plastique dans notre société. On s'est rendu compte que 43,7% de notre population n'a aucune idée en ce qui concerne l'utilisation, la réduction et le recyclage des plastiques.
Mine rappela Kiamanga, la vingtaine, étudiante en informatique, fait le même constat.
Beaucoup d'ordures, beaucoup de plastique éparpillé partout. Cela est dû à l'ignorance, car beaucoup ne savent pas le danger que représente le plastique. Beaucoup pensent qu'après avoir consommé le contenu, on jette le plastique. Et pire, on le jette au sol où il y a des poulets, des enfants qui mangent le plastique, et les rivières sont polluées. Les gens ne savent pas qu'on peut utiliser le plastique 20 fois ici en Guinée équatoriale.
La loi sur la pollution plastique est encore inexistante. Le pays importe des millions d'objets en plastique et en fabrique aussi sur place. Le gouvernement soutenu par l'ONU a lancé une campagne d'action, mais aussi de sensibilisation afin de conscientiser la population sur la protection de l'environnement. Pour pérenniser cette sensibilisation, le PNUD a impliqué la jeunesse dans cette initiative. Betty Wabwanoa est la représentante résistante des Nations Unies à Malabo.
La juventud.
La jeunesse joue un rôle très important dans la gestion des résidus et pour la protection de l'environnement en général. De ces faits, si nous voulons avoir un changement d'attitude positif, on ne peut pas la laisser en marge d'aucune action, car la jeunesse constitue le moteur du développement de l'Afrique et c'est le futur.
Samuel Obiambana, Marabo, pour VOA Afrique.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression, l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Alors que les États-Unis célèbrent ce 4 juillet les 247 ans de leur indépendance, les petites villes américaines ont développé leur propre tradition pour marquer cette journée et rassembler leur communauté. Saqib Ould Islam s'est rendu à South Riding, en Virginie, où l'on a célébré la fête nationale avant le 4 juillet. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Malgré ce jour de pluie, dans cette petite ville de Virginie, les habitants se réunissent pour célébrer la fête de l'indépendance. L'événement Star Spangled South Riding a attiré des milliers de personnes depuis 1996, où des éléments historiques sont présentés sur des chars. Warner Workman fait partie de l'organisation Les Fils de la Révolution américaine.
Nous distribuons beaucoup de drapeaux et nous essayons de parler un peu d'histoire. Les enfants aiment les couleurs, agiter le drapeau et ils aiment sonner la cloche.
Bobby Kittle est le responsable des événements de South Riding Proprietary qui organise ce festival depuis 1996.
Tout ce que cela fait, c'est d'inclure les gens dans la même aventure que vous. Ce qui est amusant, c'est une vraie communauté qui est là, juste à côté de chez vous.
Et les habitants apprécient. Chiao et Latita sont tous deux habitants de South Riding.
J'aime toujours l'atmosphère d'ici et les gens d'ici.
C'est plus près de chez moi avec aucun trajet.
Et le festival rassemble différentes communautés dans l'esprit de la fête nationale. Sam habite aussi à South Riding.
Nous vivons dans la même communauté, nous voulons faire partie de la communauté, vous savez, célébrer. Nous sommes impatients de voir les feux d'artifice.
La fête s'est terminée par un feu d'artifice et par un message célébrant la vie, la liberté et la recherche du bonheur, des paroles issues de la Déclaration d'indépendance. La grande célébration, c'est demain, 4 juillet.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Seloudia, de Lionel Ronanira Gaïma et de Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.